d'une certaine manière, je pense que les jeunes, en gros, hein,
les jeunes, ils n'ont pas beaucoup changé.
Voilà, il y a cette fameuse crise d'adolescence, il y a des jeunes qui sont plus en difficulté que d'autres, donc qui réagissent d'une manière plus violente que d'autres face aux problématiques qu'ils ont à traverser. Ce qui change énormément, c'est le regard de la société par rapport à cette jeunesse. Plus la société se sent en danger, se sent dans une sorte d'angoisse de l'avenir, dans une angoisse économique, sociale, plus elle a tendance à se refermer et à imaginer que la seule solution pour les jeunes qui posent problème, c'est l'éloignement, l'enfermement, la dureté, la sanction, la répression. Mieux la société va, plus elle est en confiance par rapport à ce qu'elle vit et à son avenir, plus elle est en mesure de s'ouvrir et d'innover dans ses façons de prendre en charge la jeunesse difficile. Et selon les moments, la presse, les médias ont un rôle très important dans cette histoire-là et dans cet équilibre-là. Et souvent, quand justement les sociétés sont particulièrement en crise, les médias sont là pour mettre un coup de projecteur particulier sur ces fameuses bandes de jeunes. Et donc c'est comme ça que dans les années 1900-1910, on a les Apaches. Les Apaches, ce sont ceux qui vont pour les premières fois dire « Écoutez, la valeur travail, c'est peut-être pas la seule des valeurs. Ouais, c'est sympa d'aller quand même en guinguette et de danser. Leur danse à eux, c'est la java, une danse de sauvage. » Et donc, on va expliquer que ces jeunes anarchistes sont des Apaches. Les Apaches, c'est les Indiens les plus violents des États-Unis, décrits comme indomptables. On va leur donner un uniforme, on va les décrire avec leurs pantalons pattes d'eph, leurs casquettes. Ils ont un lieu aussi, c'est les fortifs. Et eux, on leur reproche surtout leur X au couteau, leur vol dans les poches. Si vous lisez les journaux des années 1900-1910, vous auriez l'impression quasiment que c'est un article que vous avez lu dans la presse il y a 1, 2 ou 3 ans. Il y a des moments vraiment où les mêmes mots sont employés. Ensuite, on a le fameux blouson noir. Les années 70, c'est les beatniks. Les beatniks, ils sont sur la route, effectivement. C'est ça, leur lieu de prédilection. Ils ont aussi un uniforme sale. Ils ont une musique de sauvage, le free jazz, la protest song. Ils sont finalement ceux qui seront le moins mal perçus par la société. Il n'y a aucun sentiment, il y a peu de sentiments d'insécurité par rapport aux beatniks. On est dans les années 70, on est avant la crise pétrolière. On est dans un sentiment qu'on a fait mieux que nos parents, qui ont fait mieux que nos grands-parents, et que forcément nos enfants vont faire mieux que nous. Une sorte d'utopie de l'ascension sociale permanente, une sorte de rêve comme ça, du mieux permanent. Et du coup, on est beaucoup plus tolérant vis-à-vis de la jeunesse. Et on se dit que quelque part, effectivement, ils fument beaucoup, ils sont beaucoup partis, mais ils vont finir par se reprendre, se placer, et puis réussir leur vie. On ne les a pas considérés comme agressifs, mais en même temps, à d'autres époques, je pense que ce phénomène de partir sur la route, de tout abandonner, c'est les plus politisés, c'est ceux qui remettent le plus en cause la société dans laquelle ils vivent. Et pourtant, cette société ne va pas les vivre comme violents. Mais ils étaient, d'une certaine manière, extrêmement violents dans leurs revendications, dans leurs messages politiques, dans leur mode de vie. Et puis aujourd'hui, enfin en 2005, on a eu la fameuse racaille. Leur délit, c'est les incendies de voitures, c'est cette violence gratuite aussi beaucoup qu'on a décrite. Leur lieu, la cité, leur costume, survêtement, capuche, basket à marque. Rendez-vous dans 30 ans ? En sachant qu'en plus, en ce moment, on est dans une situation économique qui est très différente de celle des années 59-62, et que les jeunes dont on parle là n'ont aucun espoir par rapport à leur ascension sociale. La porte est quand même très fermée et on leur répète souvent. Donc là aussi, ils en ont bien conscience, hein, et ça peut donner quand même, chez beaucoup de monde, un sentiment de violence, d'exaspération, qui n'est pas défendable sur les passages à l'acte qui se passent, mais qui est entendable en tout cas.
Vous êtes toujours avec les petites communistes des oreilles loin du front sur FPP. Et Juliette, que vient-on d'entendre ?
On vient d'entendre une interview. Non, c'était une visite en fait du centre qui s'appelle Centre d'exposition Enfance en Justice, qui est donc situé au CAE de la ferme de Champagne, qui est donc un centre éducatif. Et c'était donc Véronique Blanchard qui nous expliquait un peu l'histoire de toutes les bandes de jeunes depuis les années 1900. Et finalement, on s'est rendu compte que des problèmes avec des adolescents difficiles, il y en a toujours eu, mais que la société réagissait différemment en fonction des époques. Et c'est donc de cela qu'on va parler aujourd'hui.
Voilà, c'est effectivement de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'on reçoit Chantal et Maria, qui travaillent à la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Alors la PJJ, quand on s'y intéresse un peu, on se rend compte que vous êtes souvent en grève, mais qu'en même temps, c'est relativement peu visible, et que les mobilisations qu'il peut y avoir dans votre secteur restent... reste invisible et les enjeux qu'elle soulève sont rarement discutés. Donc c'était un petit peu pour ça qu'on a souhaité vous inviter ce soir, à la fois pour comprendre et expliquer ce que peut être la justice des mineurs, quels en sont les enjeux, et puis grosso modo on va essayer de voir comment elle fonctionne depuis 1945, puisque elle trouve ses origines dans sa forme actuelle en 45. Alors peut-être on va d'abord dire d'où vous parlez. On l'a dit, vous êtes syndicaliste et vous êtes au SNPES, PJJ. Est-ce qu'en deux mots, avant de commencer, vous pouvez nous dire ce qu'est le SNPES ?
Mais le SNPES, ça veut dire en fait Syndicat National des Personnels de l'Éducation et du Social de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Et nous sommes un syndicat, on appartient à la FSU, un syndicat de fonctionnaires, hein, une grosse fédération de fonctionnaires. Et en fait, jusqu'au mois de juin dernier, date de notre dernier congrès, nous nous appelions Syndicat National des Personnels de l'Éducation Surveillée, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Parce que nous sommes appelés Éducation Surveillée depuis 1945, jusque dans les années 90, où notre administration a décidé de changer d'appellation. Et nous sommes devenus Protection Judiciaire de la Jeunesse. Mais enfin, Éducation Surveillée, Protection Judiciaire de la Jeunesse, c'est la même institution depuis 1945. Et pour continuer à parler un petit peu de notre syndicat en deux mots, parce que l'essentiel, je pense, c'est de parler de la jeunesse en difficulté et du sort qui lui est réservé aujourd'hui, nous sommes le syndicat majoritaire de cette institution. Hein, et donc nous pensons avoir une parole représentative de ce que pensent les professionnels. Encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous sommes un syndicat qui initions des combats importants. Nous sommes peu visibles parce que c'est une petite administration au sein du ministère de la Justice. Et donc c'est vrai que si la délinquance des mineurs, si les jeunes qui ont affaire avec la justice, on en parle énormément, beaucoup trop d'ailleurs, parfois, souvent, en ce moment surtout. Les professionnels qui en ont la charge, qui s'en occupent, on en parle très très peu et on connaît très peu notre travail. Voilà. Et aujourd'hui, un des problèmes, c'est une méconnaissance de la part du grand public, de l'opinion, et puis aussi une méconnaissance qui est entretenue sciemment, vraiment volontairement, par les politiques et le gouvernement actuel.
Alors justement, on va essayer de se pencher un petit peu sur ce qu'est l'histoire de la justice pour les mineurs. Ça, si je comprends bien, tout débute dans sa forme actuelle en 1945, avec l'ordonnance de 1945 et un contexte historique où il y a la volonté d'avancer, qui est des avancées sociales. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur d'abord qu'est-ce qu'il y a dans cette ordonnance ? Qu'est-ce qu'elle donne comme cadre à la justice pour les mineurs ?
Avant 1945, les jeunes qui commettaient des délits, les jeunes déviants, on va dire ça comme ça, étaient pris en charge par l'administration pénitentiaire au sein du ministère de la Justice. Et donc c'était une prise en charge carcérale, uniquement carcérale. Et donc avec toutes les dérives terribles hein, que l'on sait, il y avait les colonies pénitentiaires qu'on a appelées les bagnes pour enfants. Donc c'était une prise en charge vraiment très très disciplinaire, carcérale. Voilà, c'était des prisons pour enfants, hein, pour schématiser, mais voilà, c'était vraiment cette réalité-là. Il y avait différentes formes hein, d'institutions, mais en tous les cas, c'était une prise en charge carcérale. Et en 1945, dans la foulée d'autres réformes progressistes hein, à la libération, comme la sécurité sociale, d'autres choses, qui voulaient donner un petit peu une cohérence au pays qui se reconstruisait, il y a eu donc cette ordonnance de 1945, simplement qui disait la volonté des législateurs de l'époque de prendre en charge cette jeunesse en grande difficulté, qui en plus, suite à la guerre, était vraiment dans une partie de la jeunesse était vraiment très très déshéritée. Même ceux qui commettaient des délits, les législateurs avaient dit il faut prendre en charge toute cette jeunesse et donner la priorité aux mesures à une prise en charge éducative sur la répression. Alors cette ordonnance, ça c'était la philosophie, et c'est clairement dans l'ordonnance de 1945 qu'il y a un long préambule qui explique cette philosophie. Et lorsque l'on parle d'ailleurs de la défense de l'ordonnance de 1945, ceux qui la défendent surtout la philosophie et ce qui est inscrit dans ce préambule. Hein.
Et parce que si je ne me trompe pas dans la manière dont c'est affirmé à ce moment-là, il y a l'idée que les jeunes qui ont commis un délit sont redevables devant la loi, mais en même temps, la société est aussi met en cause la société elle-même parce qu'elle doit protéger. Il y a un système d'aller-retour qui est très présent, si j'ai bien compris.
Oui, ce qu'il y avait d'important justement. Qu'il est important de préciser à l'heure actuelle, où justement avec Sarkozy tout est remis en cause, c'est qu'on prenait en compte la jeunesse, enfin l'âge des déviants, comme tu viens de le dire, Maria, et que c'était une atténuation, qu'on ne les jugeait pas comme des majeurs, qu'on prenait en cause la société. Que du fait de leur âge, du fait qu'aussi ils étaient dans une période d'adolescence, tout a été pris dans le contexte. Ce sont des jeunes en devenir, et on ne jugeait pas que l'acte, on jugeait aussi le contexte où ils vivaient, le contexte, tout ce qu'ils avaient pu vivre, leur famille, enfin tout était important.
Oui, et c'était surtout un appel à la responsabilité de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que l'ensemble de la société devait se sentir responsable de l'avenir de la jeunesse, quoi. Et c'est ça qui est très important et qui est radicalement opposé à ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une volonté de mise à l'écart. On ne veut pas voir, et la société se déresponsabilise totalement de cette partie de la jeunesse qui a de grandes difficultés et qui, en fonction de ces difficultés, pose des actes délinquants. C'est ça qui est important et vraiment qui est radicalement différent de ce qui se passe aujourd'hui.
Mais est-ce que ça signifie, pour revenir juste un peu avant, est-ce que ça signifie qu'avant 1945, il y avait en fait le mineur, la justice des mineurs n'existait absolument pas, qu'il n'y avait aucune législation pour prendre en compte la minorité d'une personne devant la justice ?
Il y avait des textes et par-ci par-là dans le code pénal, si vous voulez, mais il n'y avait pas une législation cohérente qui traçait une ligne, qui traçait un projet par rapport à la jeunesse en difficulté. Il n'y avait pas ça. Et surtout, il n'y avait pas cette prise de conscience, comme le disait Chantal à l'instant, que les enfants, les jeunes, sont des êtres en construction. et que donc la société a un devoir vis-à-vis d'eux lorsque la famille, les parents sont défaillants, sont en difficulté. Voilà. Mais en même temps, je voudrais dire tout de suite, très vite, que ce n'est pas... Nous, on rappelle tout le temps cet esprit de l'ordonnance de 45 parce que c'est un moment fondateur et que c'est ça qui a construit aussi une institution et des savoir-faire petit à petit de professionnels. Mais en même temps, ça n'a jamais été quelque chose d'acquis totalement. Jamais. Et il a toujours fallu se battre pour conserver cette ambition sociale vis-à-vis de la jeunesse en difficulté. C'est-à-dire que, en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, le dernier centre fermé, avant que ceux qui existent actuellement soient réinstaurés, ont été fermés en 1979. C'est relativement récent dans l'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque moment où il y avait des problèmes sociaux qui se posaient, et on stigmatisait les jeunes qui commettent des délits et comme les fauteurs de troubles, on les stigmatisait comme étant la cause de l'insécurité et ce qui vient toujours faire écran à la nécessaire résolution des problèmes sociaux quoi, hein, et des réponses à apporter à ces jeunes en difficulté. Et on a connu ça cycliquement. Hein, il y a eu des cycles, des périodes où en fait la justice des mineurs a pris des tours plus ou moins répressifs en fonction de ce qui se passait dans la société. Aujourd'hui, quand même, moi j'ai envie de dire qu'on est dans un moment de profonde régression et plus profond qu'un autre moment de l'histoire que l'on a connu vis-à-vis de la jeunesse. Hein, c'est parce que vraiment les attaques sont profondes, radicales. Hein, et on voit bien qu'en fait ça vient vraiment là pour le coup. On voit bien cette fonction d'écran total, je veux dire, c'est-à-dire stigmatiser la jeunesse qui pose des problèmes, qui a des problèmes. Ça permet aussi de ne pas résoudre les causes de ces problèmes. Hein. Et donc, nous, on fait tout à fait le lien entre l'augmentation de la pauvreté, l'augmentation de la misère, l'augmentation de la précarité, l'abandon de certains quartiers avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi, avec ce qui se passe aujourd'hui à l'égard de cette jeunesse. Ça vient vraiment faire écran, quoi. Au lieu de proposer des solutions durables, on stigmatise la jeunesse. Alors ça, c'est une permanence, la stigmatisation de la jeunesse, parce que la jeunesse, par définition, elle fait peur, elle est pleine de vitalité. Elle est comme diraient les psychologues, dans la pulsion de vie, hein, mais qui parfois vient rencontrer très, très frontalement la pulsion de mort. On voit par les actes qu'ils posent parfois. Hein. Mais en tous les cas, elle fait peur. Cette vitalité fait peur. Et donc, ça, c'est une permanence. La jeunesse fait peur. Et quand les politiques ne veulent pas résoudre des problèmes, les vrais problèmes, avec des solutions nécessaires, on stigmatise cette jeunesse, on la met à l'écart. Par contre, les mesures qui sont prises aujourd'hui à travers le projet Sarkozy sont extrêmement graves.
Alors on reviendra peut-être dans un second temps sur la situation actuelle, mais peut-être on pourrait continuer à dérouler le fil de l'histoire même de la PJJ. Et justement, on parlait des jeunesses turbulentes. Il y a quand même un certain nombre d'étapes dans les années 60, 70 qui vont marquer aussi l'histoire de cette protection ou de cet encadrement judiciaire de la jeunesse. Est-ce qu'on on peut évoquer ces différents moments où la figure du jeune dangereux que différents ministres vont sommer d'interpeller, ça va se reproduire?
Oui, je pense qu'on a tous en mémoire, on a tous entendu parler des blousons noirs hein, dans les années 60. Bon. C'est vrai qu'à l'époque, des blousons noirs particulièrement, on en parlait pratiquement comme on parle des jeunes aujourd'hui. Hein. C'est assez intéressant de voir comment les mêmes termes sont employés à différentes époques. C'était des jeunes qui faisaient extrêmement peur, qui pouvaient faire preuve d'une grande violence. Et c'était absolument les mêmes termes qui sont employés que ceux que l'on emploie aujourd'hui. Dans les années, fin des années 80, 90, il y a eu les premières révoltes, on va dire, dans les banlieues. Il y a eu les Minguettes, etc. Bon, je passe vite entre les années 60 et les années 80-90, mais à chaque fois, c'est le même discours qui revient et qui vient du coup contredire totalement ce que dit Sarkozy aujourd'hui, c'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier. Parce qu'en fait, quand on regarde dans l'histoire, on les traite exactement de la même façon.
Alors justement, en parlant des blousons noirs, on va retrouver Juliette qui est allée faire un grand reportage très très loin avec une carte orange 5 zones.
Non, juste 3 zones en fait, c'est pas si loin que ça. Et donc justement, c'est le centre d'exposition Enfance en Justice. Et quand j'y suis allée, il y avait une exposition sur les blousons noirs. Et pour commencer, Véronique Blanchard nous a expliqué comment justement l'affaire des blousons noirs a commencé.
Ça commence un 24 juillet 1959, deux groupes de jeunes se donnent rendez-vous au square Saint-Lambert, dans le 14e arrondissement. Il y a de la bagarre dans l'air, on a envie d'en découdre, et donc on donne rendez-vous au square Lambert. Une des bandes ne vient pas au rendez-vous. L'autre bande est surexcitée, va casser quelques vitrines de magasins, va faire peur aux passants, va casser quelques voitures. Ça fait une brève dans les journaux du soir. Mais le lendemain, à Bandol, dans le sud de la France, des jeunes, au camping, descendent à la ville, au centre-ville, et font peur aux touristes. Il y a là concomitance de ces deux faits, et tout d'un coup, de la petite brève en fin de journal, on passe à au moins deux colonnes à l'intérieur du journal. Et on titre sur ces bandes de jeunes incontrôlables, avec une violence gratuite, qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas. Et cet événement va prendre une ampleur formidable en moins d'une semaine. Les journalistes essayent de les qualifier. Bon, alors, on va utiliser d'abord énormément de termes d'Amérique. Gang, horde sauvage, équipée sauvage. Tout ça, c'est lié à des films. Marlon Brando, James Dean, La fureur de vivre. Cette incompréhension qu'on a vis-à-vis de l'adolescence. On va utiliser aussi beaucoup le terme de tricheur. Parce que c'est un film de Marcel Carné qui vient de sortir sur la jeunesse. On va utiliser voyous, on va utiliser les initiales JV. Alors pendant longtemps, on a pensé que ça voulait dire jeune voyous. En fait, pas du tout. Ce sont des termes de la police et ça veut dire jeune à vérifier. Et donc, on arrête des jeunes, on les met dans la police dans la catégorie jeune à vérifier. On vérifie leur identité, etc. Et soit on les arrête, et on les amène au tribunal pour enfants, soit on les libère. Donc on utilise tous ces qualificatifs jusqu'au soir, 3-4 jours après le 24 juillet, où François titre sur une description de ces jeunes, effectivement. Polo rouge et blouson noir. Première fois qu'on utilise ce terme-là, il va beaucoup plaire aux confrères des autres journaux. Il va être réutilisé le lendemain, le surlendemain, et à la fin du mois d'août 59, on ne parle plus que des blousons noirs. Et très vite, les blousons noirs ne vont pas seulement désigner les actes de délinquance en bande de jeunes, mais tout acte de délinquance de jeunes, puis tout acte de délinquance. Et il y a comme ça cette impression qu'il y a des blousons noirs partout, qu'ils agissent tout le temps et qu'ils commettent des méfaits en permanence. Il y a même des journaux qui vont créer une catégorie blouson noir, ou une catégorie, pour certains gardent le mot tricheur, tricheur. Tous les jours, en quatrième page de couverture, on a cette rubrique, les tricheurs, les blousons noirs, avec soi-disant tous les méfaits qu'on peut imputer aux blousons noirs. Donc vous imaginez tout d'un coup la place que ça peut prendre dans la tête des lecteurs. Nous sommes encerclés, nous sommes envahis, et tout ça est incontrôlé. Les médias ne vont pas hésiter à dire « Mais que fait la police ? Mais que fait la justice ? Ne nous abandonnez pas ! C'est la fin, là, ça va être la guerre civile ! Rendez-vous compte, faites quelque chose !»
Justement, face à toute cette violence, Véronique Blanchard nous explique exactement quelles ont été les réactions dans les années 60 face au mouvement des blousons noirs. Et ces réactions, c'est à l'époque, c'était Papon qui était préfet de police, et donc c'est lui qui les a mis en place. On va écouter ça.
Les blousons noirs arrivent dans la presse, Et chaque adulte, chaque parent se dit mais oui, c'est ça qui est en train de se passer. Je ne contrôle plus rien et donc ça va finir par de la violence gratuite, par de la révolte, par de l'insécurité. Et c'est pour ça, et c'est, je pense, hein, pour ça, en grande partie, que ça va fonctionner si bien. Bon, l'autre chose, c'est aussi le contexte politique. Qu'est-ce qui se passe en 59-62 en France ? La guerre d'Algérie. Et pour les journaux, c'est beaucoup plus tranquille de titrer sur les blousons noirs que sur la guerre d'Algérie. Surtout que ceux qui vont aller à la guerre d'Algérie, c'est les blousons noirs. Alors, si on explique qu'ils sont bien mauvais, qu'ils sont ingérables, qu'ils sont non maîtrisables, ça semble assez normal qu'on aille un peu les redresser sous les drapeaux. Donc, la police, d'une certaine manière, est quand même un peu, en tout cas, sur la sellette. Elle va répondre très vite. Hein. Papon, ça va pas du, ça va effectivement lui permettre d'arrêter beaucoup plus de jeunes et de faire des patrouilles très importantes. Et puis la justice aussi est interpellée. L'éducation surveillée est interpellée. Elle est en train d'essayer, bon an, mal an, de mettre en place la philosophie de l'ordonnance de 45, qui est l'éducation avant la sanction, la prévention, un peu. C'est tout nouveau, mais ça arrive. Donc elle est en train d'essayer de mettre ça un tout petit peu en place. Et on lui explique que, ben voilà, c'est beaucoup trop éducatif tout ça. On est trop laxiste avec les jeunes. Et quand on est trop laxiste avec les jeunes, qu'est-ce que ça donne ? Les blousons noirs. Il faut serrer la vis. La seule chose que comprennent ces jeunes, c'est la fermeté, c'est la discipline, c'est la sévérité. Et on somme l'éducation surveillée de réfléchir à un retour vers plus de sévérité. Ça donne, à partir de 1961-1962, des commissions de réflexion à l'éducation surveillée sur le retour vers des centres fermés. Alors on va réfléchir longtemps, comme souvent, et ça n'apparaîtra dans les faits qu'en 1971. Ça fait bien longtemps que la population a oublié les blousons noirs, mais les structures, elles sont là. Il y en a une qui ouvre à Juvisy, et elle va rester fermée pendant 4 ans, et très vite va être dénoncé comme une cocotte minute où il est impossible de travailler, impossible de faire un travail efficace avec les jeunes. Et le garde des Sceaux, qui est à l'époque M. Perfitte, décide de fermer les centres fermés après 4 ans d'expérience.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, c'est l'émission Les Oreilles Loin du Front, et donc on est toujours avec Chantal et Maria, on discute autour de la PJJ et de l'histoire de la justice pour les mineurs. Alors on entendait dans ce reportage comment l'image des blousons noirs débordait largement de sa réalité dans ce qui était donné à voir. Est-ce que justement tous ces problèmes d'insécurité avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, qui sont mis en avant cycliquement par les pouvoirs publics, finalement vont influencer la manière dont la justice pour les mineurs se met en place, jusqu'aux émeutes récemment, mais toutes les années 70, 80, 90, ça va être un enjeu permanent.
Oui, c'est-à-dire que, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, en fait, même si ce qui a fondé la justice des mineurs était extrêmement ouvert et progressiste et appelait la société à prendre des risques par rapport à ces jeunes en difficulté et à prendre ses responsabilités, de toute façon... voilà, il y a toujours eu à se battre, quoi, pour garder cette idée-là comme une espèce d'utopie. Voilà. Mais entre-temps, quand même, parce que voilà, c'est une administration qui est sous la pression directe du politique. Entre-temps, quand même, les professionnels ont su, avec les magistrats de la jeunesse, hein, il faut le dire, hein, les juges pour enfants, ont su quand même faire progresser énormément les choses, ont su inventer des solutions, des savoir-faire, ont approfondi la connaissance des adolescents en difficulté. Les métiers se sont de plus en plus professionnalisés, on va dire. Et donc, en fait, à certaines périodes, on a vu coexister, curieusement d'ailleurs, hein, coexister des solutions pour les jeunes délinquants, les jeunes en difficulté, qui se déroulaient vraiment en milieu ouvert, hein, et avec des solutions plus coercitives. Et c'est le cas d'ailleurs dans les années 70, hein, on en parlait tout à l'heure par rapport au blouson noir. Pendant que le milieu ouvert, le travail des éducateurs, des personnels de l'éducation surveillée à l'époque auprès des jeunes se déroulait en milieu ouvert et se développait, il y a de plus en plus de services de milieu ouvert se sont développés entre les années 60 et les années 70, il y avait dans le même temps des centres fermés et un retour aux solutions carcérales qui se mettaient en place. Ça a coexisté à certaines périodes. Donc, tout ça pour dire que ça a toujours été quelque chose d'extrêmement difficile à maintenir, hein, à maintenir. C'est-à-dire cette vision responsable et tolérante vis-à-vis de la jeunesse est toujours un combat. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est toujours un combat permanent, quoi.
Alors, vous parlez de savoir-faire, de milieu ouvert. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est qu'une prise en charge d'un mineur délinquant? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette alternative?
Mais en fait, les savoir-faire dont je parle, c'est la conviction acquise par un métier que l'adolescence est un moment tout à fait particulier, est un passage dans la vie de tout être humain. Et qu'il y a des adolescents qui la traversent plus ou moins bien en fonction des conditions sociales de vie, des conditions personnelles aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les causes sociales, il peut y avoir aussi eu aussi pour ces jeunes-là des drames familiaux, personnels extrêmement graves qui sont venus casser quelque chose dans leur évolution, hein. Donc il y a ça d'une part, et il y a aussi la conviction professionnelle acquise que pour résoudre les problèmes de ces adolescents, pour les aider à sortir de la délinquance, il faut les aider à comprendre pourquoi et comment ils sont là-dedans. Et comment au moment de l'adolescence où ils sont en recherche, comme tous les adolescents du monde, ça peut passer, cette espèce de quête, de questionnement que tous les adolescents traversent, pour certains adolescents, peut passer par de la délinquance, des délits. Pourquoi? Et donc, parce que ces adolescents ne pensent pas à ce qu'ils font. Hein. Ce sont des pulsions. Il y a donc un manque de structuration chez eux, interne, qu'il s'agit de résoudre. Et on ne peut le résoudre que si on permet aux jeunes dont on s'occupe de comprendre ce qui leur arrive, c'est-à-dire de les faire acteurs de leur vie, de leur histoire, de façon à dépasser les actes. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est préconisé aujourd'hui par rapport à eux, c'est tout autre chose. Ce n'est que la punition, que la répression. Voilà. Imaginez des parents dans une famille à peu près normale, qui va à peu près bien, voilà, qui n'a pas de problème particulier ou particulièrement grave. Imaginez que des parents ne fonctionnent qu'avec la menace de la punition. Si tu ne fais pas ça, tu feras ceci. Non. L'éducation, ça passe par par la parole, ça passe aussi par la négociation, ça passe. Il faut que les jeunes comprennent ce qu'ils font, et aussi ce qui risque de leur arriver. Comprennent le sens d'une sanction. Une sanction n'a d'efficacité que si les adolescents la comprennent, en comprennent la portée. Comme pour tous les adolescents, hein, même ceux qui ne commettent pas des délits, mais la punition pure ne permet pas aux adolescents de comprendre le sens de la sanction, donc ne permet pas pour eux de se restructurer. Alors voilà, ce sont ça tous nos savoir-faire, c'est-à-dire que nous, on a une façon particulière d'approcher ces adolescents en difficulté, en prenant en compte aussi leur milieu familial, leur contexte de vie, en travaillant avec les parents pour les aider à reprendre leur place de parents auprès d'eux. Tout ça, on sait faire. Et c'est efficace. En réalité, c'est efficace. C'est tout à fait efficace. Tout le monde le sait. Enfin, tout le monde. Ceux qui veulent bien le savoir le savent. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans ce domaine-là le savent que c'est efficace. Mais simplement, il faut un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas aider des jeunes à se restructurer, des gens qui ont eu en général des parcours de vie dramatiques, hein, vraiment, hein, enfin, avec des choses qui ont eu des enfances fracassées, qui ont eu des enfances de maltraitance pour la plupart d'entre eux. On ne peut pas, ça prend du temps de les aider à se restructurer, voilà, et à s'insérer. Et ce temps-là, la société aujourd'hui ne veut plus l'accepter, voilà. Et les politiques pour rassurer donc une opinion publique qui est inquiète, au lieu de leur expliquer que c'est possible de les sortir, ces adolescents, de leurs difficultés, mais que simplement il faut du temps et aussi des moyens, et qu'il faut aussi que la société dans son ensemble les aide, les soutienne aussi, parce que en fait la mise à l'écart ne sert à rien, ne résout rien, tout le monde le sait, hein. Eh bien, au lieu de ça, les politiques, pour rassurer de façon très rapide et pour gagner les élections à chaque fois, c'est purement électoraliste, en fait, ils vont au plus vite et au plus visible. C'est-à-dire, voilà, parce que les solutions les plus simplistes qui permettent aux gens d'être rassurés, et les gens pensent que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Mais c'est de la responsabilité des politiques d'expliquer aux citoyens que comment on résout les problèmes de ces jeunes-là.
Mais peut-être vas-y,
oui, ce que je voulais préciser, parce que probablement tout à l'heure on va parler de centres fermés, d'établissements pénitentiaires pour mineurs, c'est que sur la base de ce que vient de dire Maria, il y a déjà, enfin, il y a des lieux tout à fait en capacité de s'occuper de ces jeunes. Donc ce sont des foyers éducatifs où les jeunes qui nous sont confiés parce qu'il y a un problème dans la famille sur décision du juge vivent donc dans cette structure mais de façon ouverte, c'est-à-dire qu'ils peuvent être tout à fait scolarisés dans un lycée, simplement ils vivent là, il y a des éducateurs, il y a différents personnels, et ça c'est important aussi parce qu'il y a différents regards, il y a différentes écoutes. La PJJ s'occupe également de ces jeunes dans des structures ouvertes. Donc il y a un suivi des jeunes là sur rendez-vous, entretien, etc. Donc je pense que ça aussi c'est important de le préciser parce que lorsque les centres fermés et les EPM apparaissent comme la solution du politique, ils oublient aussi de dire que la PJJ est structurée d'une certaine manière et tout à fait en aptitude de recevoir les jeunes qui sont confiés par la justice, et que ces jeunes ne sont pas dans la nature, etc., et ont un suivi, une écoute particulière.
Donc tu as répondu à ma question, justement, c'était sur ça, sur ces dispositifs d'accompagnement concrètement qui existaient actuellement.
Alors je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait préciser, c'est que tous les jeunes qui sont en rapport avec la justice des mineurs, avec la PJ, ne sont pas nécessairement des jeunes qui ont commis un délit. Mais il y a aussi un certain nombre de jeunes qu'on considère en danger pour eux-mêmes et qui donc sont placés par des juges. Est-ce qu'on peut expliquer cette particularité quand même qui fait que il y a donc des jeunes qui sont placés alors qu'ils sont pas a priori pas sanctionnés par la loi?
En fait, la justice des mineurs jusqu'alors et jusqu'à encore aujourd'hui, mais peut-être pas pour très longtemps, a une double compétence, c'est de s'occuper des jeunes en danger et des jeunes qui commettent des délits. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les réponses judiciaires au civil et celles au pénal. Voilà. Et il y a cette double compétence, hein. Et c'est justement ça qui a fait un petit peu jusqu'alors la richesse de ce dispositif en France, c'est que on s'occupait jusqu'alors à peu près de la même façon des jeunes en danger que des jeunes délinquants. Parce que on considère que les jeunes délinquants, comme je le disais tout à l'heure, sont aussi des jeunes en danger, hein, qu'il faut d'une part les protéger d'eux-mêmes, hein, mais que aussi dans leur passé, dans leur enfance, ils ont vécu dans des conditions de danger, hein, ils ont vécu des situations de danger. Et parallèlement, on considère que les jeunes en danger, si on ne les aide pas suffisamment à temps, peuvent, au moment de l'adolescence, passer aussi dans la délinquance. Donc, cette double compétence au civil et au pénal, comme on dit judiciairement, c'est-à-dire pour les mineurs en danger et les mineurs délinquants, permet justement cette approche articulée, on va dire, hein, entre ceux qui sont en danger et ceux qui seraient... aujourd'hui, on dit ceux qui sont dangereux, mais en tous les cas, nous, on dit ceux qui sont en danger et ceux qui commettent des délits qui peuvent être aussi en danger. Donc, ce sont des jeunes que l'on doit traiter de façon à peu près similaire, même si pour les jeunes qui commettent des délits, on axe notre travail, pour parler un peu plus concrètement, aussi également sur les actes de délinquance qu'ils commettent, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les faire réfléchir et prendre conscience de quelle place ça prend dans leur parcours de vie. Hein, pour les jeunes en danger, on travaille surtout sur l'environnement, hein, sur l'environnement familial, hein, pour aider les parents à reprendre leur place, à être, ne pas être dans la maltraitance, etc. Bon, donc, au final, on s'occupe des deux catégories de façon éducative.
Et ça, c'est un accompagnement qui dure combien de temps, par exemple? Pour un jeune en danger ou pour un jeune qui vient de commettre un délit, il va être accompagné à l'intérieur d'une structure de la PJJ. Mais ça s'engage, en fait, ce processus, sur combien d'années? Est-ce que c'est à très long terme ou est-ce que c'est des réponses qui sont plus brèves ou...
En fait, le temps de notre intervention, nous, les services éducatifs, dépend du temps de la mesure judiciaire, hein, parce que le juge des enfants prend une mesure judiciaire. Bon, en général, la mesure judiciaire la plus courte, c'est 6 mois, c'est ce qu'on appelle les mesures provisoires, mais il peut y en avoir des plus longues, qui sont des mesures sur le fond, comme on dit, sur un plan strictement juridique. Bon, mais... en fait, lorsque un service suit un jeune, un enfant, un jeune, une fois que le temps de la mesure judiciaire est terminé, si on estime qu'il y a encore besoin de poursuivre le travail, l'action éducative, on demande le renouvellement au juge des enfants. Voilà, c'est lui qui décide, hein, mais bon, en général, le juge des enfants comprend à chaque fois qu'il faut renouveler. Donc, à travers cette possibilité de renouveler les mesures judiciaires, on peut suivre les enfants pendant un certain temps. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, on est en train de rompre avec ce système-là, hein, pour des suivis beaucoup plus courts et plus séquentiels.
Et depuis 6 mois, je t'écris, mon poteau, de derrière les murs, de derrière la vie. Dis, est-ce qu'il fait beau? Est-ce que dehors, il y a des oiseaux? Ceux que je vois ici sont tatoués sur ma peau. J'avais déjà purgé ma peine avant même d'être ici toute ma vie.
pas compris ça, les teignes qui m'ont puni. Que la vie fut une chienne, avec moi comme avec ceux qui ont dans les yeux. Trop d'amour ou trop de haine ou trop des deux. Parce qu'un beau jour, sans remords, j'ai taxé un putain de vélo, même pas en or. Puis, deux, trois conneries, des trucs de pauvres, des trucs pas beaux. Un autoradio, une montre ou un stylo. J'avais déjà purgé ma peine avant même d'être ici toute ma vie. On m'a jamais dit je t'aime, et ben tant pis. Si la vie fut une chienne, avec moi comme avec ceux qui ont dans les yeux la braise, la cendre, le feu. Tu ris, tu pleures, tu vis, puis tu meurs. Trois petits tours et puis s'en vont les petits voleurs. Barreau, garrot, une corde, à bientôt, en enfer, au paradis ou au bistrot. Salut Manu, Pierrot et Angelo, dis-leur bien que l'amitié, ça tient chaud. Tu ris, tu pleures, tu vis, puis tu meurs. Trois petits tours et puis s'en vont les petits malheurs. Fa la fa 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 fa. Allez, vas-y, Jean-Louis.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. On continue à parler de la protection judiciaire de la jeunesse. On va venir, vous l'avez plusieurs fois évoqué déjà, mais on va venir à l'actualité, à ce qui vous préoccupe actuellement, et pour rien vous cacher, ce qui nous préoccupe aussi, c'est la loi de prévention de la délinquance, le projet de loi de prévention de la délinquance proposé par Sarkozy, et qui, entre autres, un de ses aspects, remet en cause une partie du fonctionnement de votre administration. Alors, est-ce qu'on peut éventuellement dire quelques mots sur ce que contient cette loi et en quoi ça modifierait ou ça aggraverait, parce que si j'ai bien compris, le mouvement est plus profond que cette simple loi. Il y a déjà eu des choses avant. Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que ça met en danger?
Bon, alors cette loi de prévention de la délinquance, elle contient beaucoup beaucoup de choses hein, qui touchent énormément beaucoup de secteurs, hein, pas seulement le secteur de la justice des mineurs, mais enfin on va parler plus précisément de ce secteur-là, hein, puisque on est là pour ça. Et donc ce qui est prévu et qui vient d'être adopté d'ailleurs à l'Assemblée nationale hein, tout à fait récemment, c'est en fait une rupture en fait de la spécificité, en gros c'est ça, de la justice des mineurs, c'est-à-dire que on ne considère plus le jeune comme un être en construction et on veut le traiter comme un majeur. Donc, par exemple, il y a la mesure de comparution immédiate qui est introduite. Hein. Donc, on sait combien cette mesure pour les majeurs est déjà très contestable, hein, parce que c'est de la justice expéditive, hein, la comparution immédiate. Pour les mineurs, c'est catastrophique. Enfin, c'est criminel. Hein. Voilà, c'est clairement, c'est criminel. C'est-à-dire que, justement, tout le monde sait qu'il faut laisser le temps aux mineurs d'évoluer dans le cadre d'un accompagnement, d'un soutien et de solutions éducatives, ça n'existera plus. C'est-à-dire, voilà, on le jugera immédiatement. Donc, solution radicale et totalement contre-productive. Voilà, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Ensuite, il y a d'autres mesures qui vont dans ce sens-là aussi, de rendre la justice des mineurs comme celle des majeurs. Par exemple, on introduit dans l'ordonnance du 45 donc, une nouvelle mesure qui s'appelle la mesure de composition pénale. C'est une mesure issue du droit pénal des majeurs. Et c'est aussi très grave parce qu'en fait, un jeune est présenté au procureur. S'il reconnaît les faits, il est soumis à cette mesure, soumis à certaines obligations. Et s'il satisfait à ces obligations, il n'y a pas de poursuite. Donc, ça annule tout travail éducatif. Hein, c'est-à-dire qu'un jeune pourra, évidemment, tout naturellement, reconnaître les faits pour être débarrassé. En fait, c'est normal, c'est humain, voilà. Et se soumettre de façon artificielle à des obligations, d'aller à un stage ou je ne sais quoi. Et puis, il n'y aura pas de poursuite. Mais ça veut dire aussi que on évacue la possibilité, à travers l'intervention d'un service et une mesure éducative, de l'aider dans la résolution de ses problèmes. Voilà, ça c'est une mesure très très grave. Et il y a aussi la possibilité d'étendre le contrôle judiciaire, qui est aussi une mesure issue du droit pénal des majeurs, à partir de 13 ans. Donc le contrôle judiciaire, c'est pareil. Si des obligations ne sont pas respectées, c'est l'incarcération. Hein. Donc c'est toujours le système de la menace, hein, avec l'incarcération comme horizon, si les obligations ne sont pas respectées. Donc tout ça, si ça peut éventuellement convenir à des majeurs qui sont déjà, on va dire, des êtres construits. Bon, on peut l'admettre et qui donc, savent ce qu'ils font. Hein. Pour les mineurs et surtout ceux qui sont en difficulté, des adolescents en difficulté ne savent pas forcément ce qu'ils font. Et donc Et donc, ce sont des mesures qui ne leur correspondent pas, qui ne correspondent pas à leurs problèmes. Il y a aussi des mesures de placement, oui, pour les enfants de 10 ans, de placement de 1 mois, c'est-à-dire qu'on peut les enlever. Là, ce n'est pas le placement au titre de la protection, hein, comme on peut le faire habituellement, mais simplement si un mineur, par exemple, un enfant de 10 ans est en absentéisme scolaire prolongé, durable, on peut le retirer de sa famille pour 1 mois, le mettre dans un établissement spécialisé pour le remettre dans le droit chemin de l'école. Donc d'abord, c'est une mesure d'éloignement pour un enfant de 10 ans, comme ça, systématique, c'est extrêmement brutal. Et d'autre part, c'est totalement, encore une fois, j'y reviens, inefficace, parce qu'on ne peut pas espérer traiter des problèmes d'un enfant de 10 ans en 1 mois. Voilà. Et cette loi, d'ailleurs, Sarkozy, par rapport à cette mesure de placement de 1 mois pour les enfants de 10 ans, ne prévoit absolument pas quel type d'établissement. Voilà, donc ça ressemble tout à fait à une mesure d'affichage. Voilà, on ne sait même pas comment ça pourra se mettre en œuvre. Mais ça ne fait rien, on affiche. On affiche qu'on va enfin s'occuper de ces enfants de 10 ans qui traînent et dont les parents sont totalement irresponsables. Quoi.
Il y a une autre mesure aussi qui me paraît importante parce qu'elle détourne aussi les services de la PJJ, c'est l'obligation d'activité de jour. En plus des foyers, des milieux ouverts, il y a également des centres d'action éducative et d'insertion qui travaillent avec les jeunes dans un but d'insertion, de remobilisation scolaire, etc. Et qui travaillent avec le jeune sur un projet, sur une adhésion du jeune. Et là, avec cette loi de prévention de la délinquance, qui aurait dû d'ailleurs s'intituler répression, il y a des activités de jour obligatoires. Donc l'activité de jour, l'insertion, est maintenant devenue une sanction. On oblige le jeune... Alors, peut-être certains...
À partir de 13 ans.
À partir de 13 ans. Donc, c'est vrai que certains peuvent se dire, oui, mais c'est jeune, il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit réinséré. Bon, OK. Mais tous les éducateurs, tous les professionnels du social vous le diront, on ne peut pas obliger. Ça va, encore une fois, avec le temps, avec beaucoup d'écoute, avec une adhésion. Quoi. On ne peut pas... le travail, l'insertion, la scolarité, ça ne peut pas être une sanction.
Alors, je t'entends dire, ces jeunes, il faut qu'ils soient réinsérés. C'est-à-dire qu'on parle, mais cette question de l'insertion, l'idée que des jeunes doivent être réinsérés.
C'est un petit peu ce qu'on entend aussi dans les médias, etc. Ces jeunes, il faut les remettre au travail. Il faut...
Voilà.
Donc, je mettais beaucoup de guillemets.
Mais justement, sur cette question, insertion ou réinsertion, il faut aussi envisager que. Dans quelle société ? Est-ce que la société a envie de les insérer ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut faire un travail d'insertion auprès de jeunes, dans la mesure où c'est pas spécialement une société qui a envie de les accueillir ? Comment on aborde cette dimension-là ?
C'est vrai que, oui, nous, on bute sur l'absence de débouchés sociaux pour ces jeunes-là. C'est-à-dire que on peut faire un travail d'accompagnement de ces jeunes pour les aider à prendre conscience de leurs difficultés. Mais si par ailleurs, ils ne trouvent pas de travail, de quoi se loger pour prendre de l'autonomie vis-à-vis de leur famille, etc., notre travail devient compliqué, se trouve dans une impasse. Et aujourd'hui, on bute énormément là-dessus. C'est-à-dire que les jeunes dont on s'occupe, nous, en tous les cas, subissent des discriminations de tout type, hein, des discriminations raciales, des discriminations à l'embauche et n'ont pas accès aux droits fondamentaux, c'est évident. Donc c'est un très très grave problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais en début de mon intervention qu'au lieu de vraiment rechercher des solutions à ce niveau-là, en termes de débouchés sociaux, on préfère construire des prisons pour les mettre à l'écart et on dit on va les réinsérer à partir de la prison. Et je saisis l'occasion d'ailleurs, puisque je parle de ça, pour vous dire que, en fait, les mesures du projet de prévention de la délinquance de Sarkozy s'inscrivent dans une continuité. Hein, depuis 2002, il y a eu les lois Perben 1, la loi Perben 1, la loi Perben 2, qui a considérablement accru la répression à l'égard des mineurs. C'est-à-dire que ce sont ces lois, depuis 2002, qui ont réinstauré les centres fermés, qu'ils ont inscrit dans la loi, hein, parce qu'avant, même s'ils ont existé, ils n'étaient même pas inscrits dans la loi. Hein. C'était des directives administratives. Hein. La PJ, l'éducation surveillée avant, disait bon, il faut refaire des centres fermés. Or, la loi Perben 1 les a inscrits dans la loi. Voilà. Et a aussi inscrit dans la loi la création de nouvelles prisons pour les mineurs, de prisons spécifiques. Voilà. Et les premières vont sortir de terre en 2007. Donc, c'est vrai que le gouvernement dit, mais c'est très bien parce qu'on va enfin séparer les mineurs incarcérés des majeurs incarcérés, et c'est très bien, et c'est ce qui est vrai. Mais nous, on dit qu'on construit des prisons qui vont coûter extrêmement cher. C'est un coût plus de 60 millions d'euros. Hein, bon. Et que donc, cet argent-là, on le prend forcément ailleurs. C'est mathématique, c'est évident. Donc on le prend sur les services éducatifs qui fonctionnent tous les jours et qui prennent en charge la très très grande majorité des jeunes. Je voulais dire ça parce que en fait le projet Sarkozy ne vient pas là par hasard. Il y a une continuité, il y a une accélération, on va dire. Hein. Il y a une surenchère sécuritaire, mais c'est-à-dire que nous, on a un combat très très important en ce moment, c'est d'empêcher la création de ces nouvelles prisons pour mineurs. Voilà. Et je voulais vous en parler. On est à l'initiative, notre syndicat, de la création de collectifs. contre les EPM, ça s'appelle établissement pénitentiaire pour mineurs, où on essaye de rassembler le plus de gens possible autour de nous, de notre combat, parce que ça, c'est quelque chose de gravissime. Ça interroge une société, ça interroge une société qui construit 7 nouvelles prisons pour mineurs. Hein. Ce n'est quand même pas rien. Hein. Et même si on nous dit que c'est pour améliorer les conditions de détention, c'est faux. Le projet politique, il est ailleurs. Il est créé.
La question de base, c'est de savoir est-ce qu'il faut enfermer les mineurs, peut-être.
Voilà,
déjà.
Exactement, exactement. Donc c'est ça, le projet politique est de les mettre à l'écart et de les enfermer. C'est pour ça qu'on crée des nouvelles prisons. C'est pas pour améliorer les conditions de détention. Parce que d'abord, la détention des mineurs doit rester exceptionnelle. La loi le dit toujours comme ça. Donc il n'y a pas de raison qu'on crée des nouvelles prisons parce que forcément, ça augmentera la détention. C'est un appel d'air, c'est évident. Et qu'en plus, on y fait travailler... Il y a énormément de moyens à l'intérieur et on y fait travailler des éducateurs, des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc on fait revenir en milieu carcéral l'institution, hein, alors qu'on s'en était sorti en 1945. Allez, c'est pour ça que je parle de régression. Donc ce qui est recherché, c'est une prise en charge en milieu carcéral pour les jeunes. Mais le discours de Sarkozy est très clair, il le dit, hein, il dit que les jeunes ne sont pas suffisamment incarcérés. Lui, dans son franc-parler, entre guillemets, dans son bon sens, entre guillemets, il dit clairement, il faut plus d'incarcération des mineurs.
Oui, voilà. Il reproche même souvent aux juges pour
et
enfants.
Et il reproche aux juges des enfants de ne pas assez incarcérer.
Voilà, ben je crois, parce que là, l'émission se termine. Voilà, je ne sais pas s'il y a un mot de conclusion. Il y a quelques mobilisations, il y a des collectifs, il y a quelques mobilisations. On a été un petit peu surpris par la faible ampleur, mais c'est désormais classique.
Du 28 novembre.
Voilà, là, c'est des quelques mobilisations qu'il y a pu y avoir contre cette nouvelle loi Sarkozy.
Oui, c'est vrai que, enfin, il y avait un petit peu de monde, mais pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu.
Enfin, en même temps, juste pour nuancer, pour pas désespérer trop, le collectif national unitaire, il existe depuis 3 ans quand même. Hein. Il tient sur la durée depuis 3 ans, le collectif national unitaire qui se bat contre le projet Sarkozy. Hein.
Est-ce que vous avez un site d'ailleurs, internet à...
Le collectif national unitaire, ouais. Mais je l'ai pas là.
Si on tape collectif national unitaire dans un moteur de recherche,
oui, ou prévention de la délinquance, prévention on a un CNU, tout
ouais,
ça marche. CNU, hein.
Ouais, bon, on essaiera de trouver, de le mettre en lien.
Donc c'est vrai que la mobilisation n'était pas à la hauteur, mais quand même c'était important. Et donc de toute façon, il faut continuer à se battre par rapport à ce projet qui est absolument liberticide parce qu'il ne touche pas que la jeunesse, hein, il touche d'autres secteurs.
Les Roms, les malades mentaux, oui, voilà. Qui sont tous des délinquants potentiels, comme on le sait.
Absolument. Mmh. Et donc,
Toutes les familles qui sont en difficulté sociale.
Tout le monde est un délinquant, en fait.
Il va y avoir la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. On a encore un petit peu de temps. Il faut absolument se rassembler. Et par ailleurs, nous, on est engagés dans une bagarre, comme je vous le disais, très, très importante, contre la création de prisons pour mineurs. Et donc, on vous invite aussi à rejoindre les collectifs anti-EPM dont vous entendriez parler dans les endroits où vous vivez. Voilà.
Oui, et puis surtout que personne se leurre, quoi, que même s'il y a des prisons aussi modernes soient-elles, ça reste une prison.
Voilà, bon bah écoutez, merci beaucoup Maria, Chantal. Alors c'était donc le SNPESPJJ, hein, il n'y a pas plus simple comme nom pour un syndicat. Et voilà, bah, merci pour ces explications et ces quelques éclairages sur l'histoire de la justice et des jeunes et ses enjeux actuels. Merci.
On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
— Voilà, c'était Les Oreilles Loin du Front, une émission entièrement réalisée avec la bouche, avec les doigts, par les délinquants de la radio libre et indépendante. Alors ce soir, on avait Guillaume Yom, le hooligan, vous le savez maintenant, le hooligan du Stade Rennais. Il y avait également Alexandrine et puis il y avait aussi à nos côtés les sœurs papins de l'expression radiophonique, puisqu'il y avait Juliette et Juliette. Mais c'est une émission qui s'est faite sans Jérémy et Cédric, qui sont ce soir restés en centre fermé parce qu'ils avaient des traces de vomi sur leur chemise. Voilà, on se retrouve nous tous les mercredis de 19h à 20h30 avec la rediffusion de cette même émission de 12h30 à 14h le vendredi. Voilà, et puis on a un très très beau site, très très bien, très beau. Le site, ça s'appelle, vous faites wafwafwaf.loldf.org sur votre ordinateur. Et puis voilà, on va vous abandonner dans les bras d'Écho du Capricorne, puisque c'est le moment où arrive Claudia, et que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.